si un homme possédant bien l'art de la médecine, au lieu de persuader le malade qui s'est remis entre ses mains, le contraint, enfant, homme ou femme, à quelque chose de préférable à l'ordonnance écrite, comment nommera-t-on une pareille violence? Ne serait-ce pas de tous les noms possibles plutôt que de celui d'atteinte à la santé, nom qu'on donne aux fautes en médecine? Et celui sur qui l'on aura exercé cette contrainte, pourra-t-il rien dire de plus faux que de prétendre que le traitement des médecins, qui lui ont fait violence, a été nuisible à la santé et contraire à l'art? C'est la vérité même. Mais qu'est-ce que nous appelons faute contre l'art du politique? N'est-ce pas ce qui est honteux, mauvais et injuste? Oui, vraiment. Et quant à ceux que l'on contraint, malgré les lois écrites et les coutumes des ancêtres, à faire d'autres choses plus justes, meilleures et plus belles qu'auparavant, dis-moi, leurs plaintes au sujet de cette violence ne seraient-elles pas les plus ridicules du monde, puisqu'assurément ils ne sont pas fondés à prétendre avoir souffert de ceux qui leur ont fait violence, des choses honteuses, injustes et mauvaises? À merveille. Et ces violences sont-elles justes, si celui qui les a employées est riche, et injuste s'il est pauvre? Ou bien si un homme qu'il ait agi ou non par la persuasion, contre les lois écrites ou en vertu des lois, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, accomplit ce qui est utile? N'est-ce pas là qu'il faut reconnaître le trait distinctif de la bonne administration d'un État, celui auquel l'homme sage et vertueux conformera sa conduite envers ceux qu'il gouverne? Comme le pilote, toujours jaloux du bien de son vaisseau et des passagers, conserve ses compagnons de voyage sains et saufs, sans insulter des lois écrites, mais en prenant son art pour règle. De même, l'État se trouverait bien d'être entre les mains d'hommes qui sauraient gouverner de cette façon et qui feraient prédominer sur les lois écrites la puissance de l'art. Enfin, il ne s'en rencontre aucune erreur dans rien de ce que font des chefs habiles, tant qu'ils observent la seule chose qu'il soit importante, savoir, de départir toujours avec intelligence ce qui est le plus juste aux membres de l'État, et tant qu'ils sont capables de les conserver et de les rendre meilleurs, autant que possible, de pire qu'ils étaient. Il n'y a rien à répondre à ce que tu viens de dire, et rien non plus à ceci. À quoi ? Que jamais la multitude ni les premiers venus ne posséderont cet art et ne deviendront capables de gouverner un État avec intelligence, mais que c'est dans les petits nombres, dans quelques hommes, dans un seul, qu'il faut chercher cette science unique du vrai gouvernement. Et que pour toutes les autres sciences, il faut, comme nous le disions il y a quelques instants, les considérer comme des imitations qui la reproduisent, les unes mieux, les autres plus mal. Comment dis-tu cela? Car tout à l'heure aussi, je n'ai rien compris à ce que tu disais de ces imitations. Ce ne serait pas mal, après avoir remué une semblable question, que de la laisser là et de ne pas poursuivre pour montrer l'erreur qui vient de se glisser ici. Quelle erreur? Ce que nous avons ici à chercher ne nous est pas tout à fait familier ni facile à apercevoir. Cependant, essayons de le saisir. Dis-moi donc, puisqu'il n'y a pour nous d'autre gouvernement parfait que celui que nous avons dit, ne vois-tu pas que, pour se conserver, les autres gouvernements doivent se servir des lois de celui-là, en faisant ce que l'on approuve aujourd'hui, quoique ce ne soit pas ce qu'il y a de plus raisonnable? Quoi donc? Qu'aucun de ceux qui font partie de l'État ne se hasarde à rien faire contre les lois, et que quiconque l'oserait soit puni de mort et de tout châtiment extrême. C'est en effet un principe fort bon et fort beau, en seconde ligne, si on laisse de côté le premier dont nous avons parlé. Poursuivons et voyons comment s'établit ce principe que nous mettons au second rang, n'est-ce pas? Oui, certes. Revenons encore une fois à ces exemples auxquels il nous faut toujours comparer le politique qui gouverne en roi. Quels exemples? Prenons l'habile pilote et l'habile médecin qui en vaut à lui seul beaucoup d'autres. Imaginons-les dans une certaine circonstance et considérons-la. Quelle circonstance? Supposons que nous croyons tous souffrir de leur part les traitements les plus indignes. Par exemple, qu'ils conservent celui de nous qu'ils veulent sauver et que celui à qui ils veulent nuire, ils lui nuisent par le feu et par le fer, et en lui prescrivant de leur payer, comme une sorte d'impôt, des sommes dont ils n'emploient pour le malade que peu de choses ou même rien, et qu'ils appliquent, eux et leurs serviteurs, à tout autre usage. Ou enfin, qu'ils reçoivent de l'argent des parents du malade ou de quelqu'un de ses ennemis pour le tuer. Supposons pareillement des pilotes qui fassent 1000 choses du même genre, laissant par un dessein perfide leurs passagers seuls à terre quand ils lèvent l'ancre, faisant des fautes pendant la traversée, et à la moindre occasion, jetant à la mer leurs marchandises et se portant envers eux à toutes sortes d'excès semblables. Supposons maintenant que l'esprit rempli de ces idées, nous arrêtons après en avoir délibéré qu'il ne sera permis ni à l'art du médecin, ni à l'art du pilote de commander en maître absolu, ni aux esclaves, ni aux hommes libres. qu'il sera tenu une assemblée soit de nous autres, soit du peuple tout entier, soit des riches seulement. Il sera loisible au premier venu qui ne connaît pas ses arts et à tous les autres artisans d'émettre leur avis sur la navigation et sur la maladie, sur la manière dont il faut user des médecines et des instruments médicaux pour le bien des malades, des navires et des instruments de marine pour la navigation, sur ce qu'il faut faire dans les dangers de la traversée, soit que ces dangers viennent des vents et des flots ou de la rencontre des pirates. Et s'il convient, dans une bataille navale, de combattre avec des vaisseaux longs contre des bâtiments semblables. Et ce qui aura paru bon à la multitude, soit que la proposition en vienne des médecins et des pilotes ou de gens ignorants dans ces arts, inscrivons-le sur des tables triangulaires et des colonnes, ou consacrons-le comme des coutumes non écrites de nos ancêtres. Et désormais, que ce soit d'après toutes ces règles que l'on navigue et que l'on traite les malades. Ce que tu proposes là est évidemment absurde. Ensuite, que tous les ans on établisse des magistrats, soit d'entre les riches, soit d'entre le peuple entier, par la voie du sort, et que les chefs ainsi établis se conforment aux lois établies dans le commandement des navires et le traitement des maladies. Voilà qui est encore pis. Considère encore ce qui suit. Lorsque l'année sera accomplie pour chacun de ces magistrats, il y faudra établir des tribunaux de juges ou choisis exprès parmi les riches ou nommés par le sort d'entre tout le peuple, faire comparaître devant eux ceux qui ont été magistrats et leur demander compte, et que le premier qui le voudra puisse les accuser de n'avoir pas cette année dirigé les vaisseaux suivant les lois écrites ou les anciennes coutumes des ancêtres. De même aussi pour ceux qui traitent les malades. Et en cas de condamnation, ce sera au même juge de décider quelle peine ou quelle amende devront subir les condamnés. Et celui qui se serait arrogé de son plein gré une pareille magistrature, quelque peine et quelque amende qu'on lui afflige, on le fera en toute justice. Il faudra de plus établir sur toutes ces matières une loi telle que, si l'on découvre quelqu'un qui s'occupe sans se tenir aux règles écrites, de recherches sur la marine et l'art du pilote, ou sur le gouvernement de la santé et les vrais principes de la médecine, à l'égard de l'air, des vents, du froid ou du chaud, et qui prétendent faire l'habile en quoi que ce soit sur quelqu'un de ces points, on le déclare d'abord non pas médecin ou pilote, mais sophiste rêveur et extravagant. Ensuite, il faudra que quiconque le voudra, parmi ceux qui en ont le droit, puisse l'accuser ou le citer devant un tribunal, comme corrompant les jeunes gens et leur conseillant de se livrer à l'art du pilote et du médecin, non pas conformément à la loi, mais en dirigeant d'après leur seule volonté les vaisseaux et les malades. Et s'il est avéré qu'il donne, soit aux jeunes gens, soit aux vieillards, des conseils contraires aux lois et aux règlements écrits, on le punira des peines les plus graves. Car il ne doit rien y avoir qui soit plus sage que les lois. Et personne ne peut ignorer les lois sur la médecine et ce qui se rapporte à la santé, ou sur la marine et l'art du pilote, étant permis à qui le veut de s'instruire des lois écrites et des coutumes des ancêtres. Si donc, ô Socrate, il arrivait pour ces sciences ce que nous disons, et de même pour l'art militaire et pour l'art de la chasse en général, pour celui de la peinture ou pour toutes les parties quelles qu'elles soient de l'art de l'imitation, pour l'art du charpentier et la fabrication d'ustensiles de toutes espèces, pour l'agriculture et tous les arts qui s'occupent des productions de la terre, ou bien encore si nous voyons exercer d'après les règles écrites l'art d'élever les chevaux ou celui d'élever les troupeaux en général, ou la divination et toutes les divisions que renferme l'art du serviteur, ou les échecs et l'arithmétique dans toutes ces parties, soit pur, soit appliqué aux surfaces planes ou aux profonds et aux solides, en toutes ces matières ainsi traitées, selon des règlements écrits et non pas selon l'art, que verrions-nous arriver? Il est évident que tous les arts périraient absolument parmi nous et ne pourraient plus jamais renaître à cause de cette loi qui défend toute recherche, de sorte que la vie, déjà assez pénible, telle qu'elle en est aujourd'hui, deviendrait tout à fait insupportable.